Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum. Nous sommes le mercredi 28 février et comme tous les mercredis, nous sommes en direct de 19h à 20h. Cette émission sera en rediffusion demain, jeudi 29 février à 9h et vous pourrez nous réécouter sur le site de Radio Galère, rubrique Ecoforum et très bientôt sur Spotify et Deezer en tapant Forêt des Possibles. Chères auditrices, chers auditeurs, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, dans votre voiture, chez vous, en replay, probablement que comme nous, vous vous posez des questions sur l'état du monde, vous observez les effets du dérèglement climatique chez vous, vous observez les tensions sociales, et puis il y a tous les tracas du quotidien, le travail, l'inflation, le temps qu'on peut accorder à nos proches et à nos passions. Alors comment concilier tout cela ? Que faire quand tout cela nous dépasse ? Comment trouver sa place dans un monde incertain ? Ce sont les questions auxquelles nous tentons de répondre chaque mercredi sur les ondes de Radio Galère. La Forêt des Possibles donne la parole aux acteurs et actrices qui pensent et font les transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région. Eux aussi se sont posés plein de questions. Leur parcours ressemble d'ailleurs probablement au vôtre. Ils et elles se sont engagés. Ils et elles ont créé leur projet. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. Semaine après semaine, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Claire Maillot, accompagnée ce soir de Marin Moffret en régie.
Bonsoir.
Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Diane, Cindy et Béatrice, le collectif marseillais de Nous Toutes.
Bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, enchantée, je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir. Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai vu que c'était 31 femmes qui sont mortes en 2024 sous les coups d'un homme décédé parce qu'elles sont, des femmes. On est fin février, ça fait donc une femme tous les deux jours. Et ce chiffre, je l'ai trouvé sur le Instagram du compte Nous Toutes National qui recense chaque féminicide. Et aujourd'hui, on est donc le 28 février, la journée des luttes pour les droits des femmes sera la semaine prochaine. Et donc, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir à notre micro ce soir pour parler de tous ces sujets. Donc, merci. Pour votre présence. Et pour commencer, j'aimerais bien savoir comment vous allez ? Quel est votre état d'énergie, votre sève aujourd'hui, ce soir ?
Moi, c'est Béatrice. Donc, aujourd'hui, tout va bien. Enfin, pas plus mal qu'hier. contente d'être là et puis de participer à la discussion et puis peut-être de permettre à nos auditrices peut-être d'en savoir plus et d'avoir envie d'en connaître plus sur le féminisme et l'écoféminisme.
Un petit mot sur ton implication au sein du collectif ?
Moi, je viens juste de le rejoindre. Ah oui, je viens juste de le rejoindre. Ça fait à peu près 4-5 mois et je me sens bien au sein de ce collectif. Je me sens soutenue. Enfin, j'ai l'impression qu'on a du lien et on fait des choses. Donc, il y a de la motivation, de l'enthousiasme. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est récent, donc j'ai pas non plus d'années de militantisme au sein de Nous Toutes.
Eh ben c'est très intéressant aussi d'avoir une néo-adhérente au collectif. Hâte de creuser le sujet. Cindy.
Enchantée. Je suis ravie d'être là et d'être invitée à cette discussion. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi et puis d'être entendue, de partager des mots qui peut-être vont résonner pour les auditrices. Donc ça va bien. Je suis plutôt contente, plutôt impressionnée aussi, mais très contente d'être là.
Et toi, ton implication au sein du collectif ?
Moi, je suis là depuis presque 2 ans maintenant dans le collectif marseillais. Et donc, j'ai participé à l'organisation de pas mal de manifestations déjà et puis des événements de sensibilisation. Donc voilà, une implication assez régulière maintenant depuis 2 ans.
Super. Et pour finir, Diane.
Bonsoir. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir parler de ce collectif et de partager avec des personnes qui ne sont pas forcément au courant de nos actions à nous toutes, nous tous de même, Marseille. Et ça va plutôt bien aussi de mon côté. Je suis très contente de pouvoir prendre la parole et discuter de ces sujets qui nous touchent et nous entourent au quotidien.
Et ça va être passionnant. Et toi, ton implication au sein du collectif ?
J'ai rejoint et co-créé Nous Tous de Marseille en 2021. Donc, septembre 2021. Donc ça commence à faire, en vrai.
Ouais,
je m'en lasse pas.
Je l'apprends que tu es cofondatrice de l'antenne marseillaise. Donc vraiment merci en tout cas d'être là ce soir et aussi pour toute la préparation de cette belle émission qui s'en vient. Vous m'avez un peu bousculé dans nos habitudes d'émission de radio, c'est-à-dire que d'habitude on demande à chacun chacune de présenter son parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez décidé de monter ce projet ou de vous impliquer. On souhaite aussi par cette question que nos auditeurs auditrices puissent se projeter, que ça puisse les inspirer et montrer quelque part un peu la voie vers un monde plus résilient et plus durable. Or, cela n'est pas trop dans vos pratiques au sein du collectif, Nous Tous. Est-ce que vous pouvez m'en dire 2 mots ? Pourquoi ce parti pris ?
Alors effectivement, on a fait le choix de pas forcément parler de nos parcours individuels, puisque la démarche de Nous Tous, c'est de parler via des faits factuels, enfin des éléments factuels, des éléments irréfutables, tels que les chiffres, des chiffres qui permettent de poser une base de discussion et de non-négociation, en fait. Donc, effectivement, les témoignages personnels au sein de Nous Toutes n'ont pas forcément la même place que dans beaucoup de collectifs féministes. Ceci dit, l'individuel est évidemment prôné dans le collectif, mais en tout cas, c'est pas par ces arguments-là que l'on va porter notre discours militant.
Et c'est pas parce que vous ne le faites pas au sein de votre collectif que ce n'est pas quelque chose à faire, bien au contraire. Chaque collectif a son mode de fonctionnement, son mode d'action, et ce n'est pas celui que vous avez retenu parce que vous êtes plutôt sur les chiffres et la data.
Bien sûr.
Mais c'est tout aussi important et complémentaire.
Tout à fait.
Donc cela étant dit, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail le collectif, enfin l'association nationale Nous Toutes, comment ça fonctionne ? Parce que depuis tout à l'heure je dis collectif, mais en fait peut-être que vous êtes une association au sein de Marseille.
Du tout.
Non, vous êtes donc un collectif.
Tu dis bien, okay. Tu dis bien, et même au niveau national c'est également un collectif. Vraiment, donc Nous Toutes a été créé, donc Nous Toutes nationale a été créé en 2019. Et puis avec vraiment une vocation de vouloir sensibiliser le grand public, le former, donc avec des chiffres comme l'a dit Diane, et donc avec des formations. Donc vraiment, je le dis maintenant, vous avez des formations en ligne gratuites extrêmement complètes sur plein de sujets du féminisme qui sont sur le site Nous Toutes, que vous pouvez faire en replay ou alors il y en a régulièrement en visio. Vraiment, formez-vous. Donc ça a été la base du travail qui a été fait. Et donc avec l'idée de s'appuyer sur des choses factuelles. Donc vraiment, le collectif a cet objectif de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. On a parlé donc des féminicides, mais il y a aussi tous les autres types de violences, les violences psychologiques, administratives, économiques, physiques évidemment. Donc toutes ces violences qui vont avoir lieu dans le couple, mais pas que. Donc ces violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, donc il a été créé au niveau national et c'est vraiment un collectif. Donc aujourd'hui, il y a un collectif national et il y a des collectifs locaux ou des collectifs jeunes aussi. Vous pouvez créer un collectif Nous Toutes dans votre collège ou votre lycée, si vous avez envie, vraiment, dans votre fac. Vous pouvez contacter le national, demander la charte et le créer, vous serez aidé pour ça. C'est le cas de notre collectif marseillais qui est un collectif local. Et la grande majorité des antennes qui sont partout en France, il y en a plus d'une centaine aujourd'hui, sont des collectifs. On est tous indépendants dans le sens où on peut choisir de s'organiser en association si on le veut, mais dans la grande majorité, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc ça représente plus d'une centaine de collectifs et en termes de militantes, je pense qu'on doit être en bon millier au moins. Et après, il y a tous les sympathisants, sympathisantes, donc ça fait du monde dans toute la France.
Et oui, je n'avais pas conscience que c'était autant de personnes qui pouvaient être concernées, enfin autant d'antennes locales déployées sur tout le territoire. Donc bravo et force à vous d'être l'antenne marseillaise. C'est super de voir que c'est des sujets qui sont tellement, enfin voilà, qui concernent tellement de personnes, en même temps la moitié de la population, et donc de voir que ce collectif et ces valeurs ont résonné à grande échelle, et donc du coup on fait des petits partout sur le territoire. Et donc là, par exemple, à Marseille, vous êtes combien d'adhérents ? C'est pas vraiment des adhérentes, des militantes ?
Voilà, c'est des militantes, donc bénévoles. On est bien 70, je pense. On doit être à peu près 70 membres qui participent aux événements, etc. Et après, il y a un noyau dur d'une quinzaine de personnes vraiment qui portent le collectif. Ça varie entre les périodes, ça varie, les gens partent, viennent. C'est ça aussi la force du collectif, c'est que les gens peuvent s'impliquer quand ils ont du temps. Et puis, c'est pas grave s'ils sont pas là pendant quelques temps parce que le travail, la famille, etc. Et reviennent à d'autres moments. Donc, il n'y a pas une adhésion où on paye et finalement, on s'est obligé de venir très régulièrement. Maintenant, en fait, on est là pour donner l'énergie et la force qu'on a à l'instant T. Donc, c'est un peu ce qui fait, je pense, la force de notre collectif aussi, cette possibilité d'aller, venir, de s'emparer des sujets qui nous parlent plus que d'autres, par exemple. Donc voilà. Et après, on a des sympathisants qui sont, par exemple, abonnés à notre newsletter ou alors sur les réseaux sociaux, qui nous suivent régulièrement et qu'on retrouve sur les événements.
D'accord. Oui, sûrement des personnes qui sont dans des luttes similaires. Et voilà, Marseille étant un petit village, on est vite amené à se croiser et à se recroiser. Et donc, du coup, je serais curieuse d'avoir ton expérience, Béatrice, en tant que nouvelle arrivante dans le collectif. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, quelles ont été un peu les étapes, l'accueil, est-ce que aujourd'hui tu t'es impliquée dans une première action? Curieuse d'en savoir un peu plus.
Alors, je effectivement, ça fait très peu de temps que j'ai rejoint le collectif et après mes camarades pourront le dire à ma place ou pas, mais je pense que je me suis pas mal intégrée dans le collectif. Enfin, en tout cas, vraiment, je m'y sens bien.
Tu peux le dire.
Oui. Merci les filles. Et en fait, j'ai trouvé ce collectif assez chaleureux. Donc, si vraiment il y a des gens qui veulent venir, venez. On rigole, on fait plein de choses ensemble. On crée du lien. Et dès la séance d'accueil, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une volonté de vraiment justement créer ce lien, créer ce collectif justement. Et l'accent était mis justement sur cette liberté d'engagement, c'est-à-dire que c'est pas la peine de vouloir, enfin si on peut pas y consacrer tout plein de temps, et on fait quelques actions, on fait du mailing, on fait peut-être on téléphone, on téléphone à des organisations avec lesquelles on est en lien, on peut faire des petites choses pour rejoindre le collectif, c'est très libre. Okay. Donc et vraiment c'est adapté à chaque agenda, chaque personne peut vraiment s'intégrer dans le collectif de façon à très 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 simple. Voilà. Donc je suis vraiment d'une facilité et un plaisir de collaborer à ce collectif.
Ok. Ouais. J'imagine que c'est hyper important d'être bien accueilli au sein d'un collectif, de trouver sa place et puis aussi qu'on se sente utile dès le début. Ça permet peut-être de voir qu'effectivement on est légitime au sein de ce collectif et après, prendre de l'expérience et être de plus en plus impliqué, porter les projets encore plus loin. Trop bien.
Je vais juste rajouter un petit mot. Effectivement, ça nous a toujours tenu à cœur de pouvoir inclure le plus de personnes possible selon leurs possibilités. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. c'est pas grave.
Ça te reviendra. Si ça te revient, n'hésite pas, en fin d'émission. Moi, je voulais aussi... tout à l'heure, tu as mentionné, Cindy, il me semble que c'était toi, la charte Nous Toutes. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot exactement sur cette charte, en quoi ça consiste un peu? Donc, j'imagine que ce sont les valeurs du collectif qui sont répliquées dans toutes les antennes.
Oui. Donc, il y a une charte nationale, en fait, pour créer un collectif local. Il suffit de contacter le national, de dire, voilà, je veux créer un collectif à cet endroit-là, voir s'il y en a un ou pas, et ensuite adhérer à cette charte. Nous toutes, de façon générale, donc l'ensemble des collectifs adhèrent à la charte du national, qui dit qu'on est un collectif qui est non-violent, qui est apartisan, qui est ouvert à tous, évidemment, et qui agit pour sensibiliser le plus grand public. Donc ça, c'est les grandes lignes. Évidemment, c'est un collectif qui ne doit pas reproduire de la violence. La charte fait plusieurs pages, mais avec l'idée de dire qu'on travaille en collectif de façon plutôt transversale et on met nos forces en commun dans nos actions. Au niveau local, on a donc on s'est inspiré de cette charte et on a refait notre charte qui part des mêmes bases. Nous, on a vraiment insisté sur le côté transversal, sur le fait que toutes les personnes, tu as parlé de légitimité tout à l'heure, et c'est un nos vrais sujets
à retrouver.
Ah ben, tu as retrouvé, si tu
oui,
peux
oui,
en parler,
bah justement, vas-y. C'était notre volonté, c'était vraiment d'essayer d'initier cette légitimité, de dire que c'est pas parce qu'on est nouvellement arrivé dans un collectif qu'on n'a pas forcément tous les outils, tous les mots de vocabulaire qui sont reliés au féminisme, et il faut pas que ça soit une barrière, et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de donner à nos militants, militantes, c'est le droit à la parole, le droit de s'exprimer et de transmettre aussi. C'est l'envie de rentrer dans ce collectif vient de justement l'envie de transmettre, et je pense que c'est hyper important de pouvoir l'accorder. Enfin, pas que nous, on a un pouvoir de décision sur ça, mais en tout cas, la société nous empêche beaucoup, à beaucoup d'endroits, de nous exprimer, et je trouve ça hyper important que l'action militante ne soit pas un frein et ne soit pas trop élitiste aussi à ces endroits-là. Donc voilà, c'était ça que je voulais.
Parfait, je ne peux pas dire mieux.
Non, c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il peut y avoir une forme de timidité quelque part quand on maîtrise pas les codes, quand on découvre un collectif, quand on découvre tout ce jargon, et donc et c'est valable dans les luttes féministes et dans tout secteur, à vrai dire, et même pas forcément dans l'associatif. Hein, premier jour dans une nouvelle entreprise, on est forcément un peu intimidé avec tous ces apprentissages. Du coup, ouais, pour la charte, est-ce qu'on avait énoncé tous les piliers?
Je pense que j'ai dit les grandes lignes. Oui.
Ok, trop bien. moi, du coup, j'aurais bien aimé savoir un petit peu quel est le quotidien du collectif Nous Toutes Marseille. Quels sont un peu vos temps forts, vos récurrences, vos actions? Peut-être que vous avez des récits d'actions passées à nous partager.
Alors, pour le quotidien du collectif, je dirais qu'il y a un peu trois piliers. C'est effectivement l'accueil des nouvelles eaux et le lien social qu'on peut créer. Donc ça, je pense que c'est un des piliers importants, puisqu'il faut effectivement recruter, puisqu'effectivement, l'action militante, sans militante, c'est compliqué. Donc il y a tout ça. On organise des cercles de parole, donc effectivement pour pouvoir aborder des thématiques et justement mettre à l'aise les personnes avec les thématiques qu'on développe. Ensuite, il y a une partie un peu plus, je dirais, administrative, où effectivement le collectif, c'est aussi participer à des réunions des AG. Où là, on se coordonne, on prévoit les actions, on se distribue les tâches sur les différentes actions. Il y a une partie administrative aussi qui fait vivre le collectif, qui fait vivre les réseaux, qui fait les mailings, qui fait la newsletter, etc. Donc ça, c'est une partie un peu plus administrative pour se coordonner, je dirais. Et enfin, les actions pures et dures. Où là, effectivement, avec les nouvelles technologies aujourd'hui et Discord, on peut s'intégrer dans différentes actions et comme ça, monter les actions petit à petit, voir est-ce qu'on fait une réunion, est-ce qu'on n'en fait pas, quelles actions on mène pour pouvoir aboutir à une action.
Ok.
Voilà.
Du coup, ça veut dire que vous avez plusieurs actions dans les tuyaux, quelque part.
C'est
et
ça.
Sur votre conversation Discord, vous pouvez avancer sur plusieurs sujets en parallèle.
C'est
et
ça.
Tout le monde n'est pas impliqué dans tous les sujets. C'est en fonction de vos affinités, j'imagine.
Oui,
c'est ça, en fait.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes de ces actions?
Bah, on peut parler de quelques-unes qu'on a faites déjà depuis du coup, la création de ce collectif. Du coup, on co-organise les manifestations chaque année du 25 novembre et du 8 mars.
Est-ce que tu peux nous rappeler exactement le 25 novembre, le 8 mars, on sait que c'est la journée de lutte pour les droits des femmes et non pas la journée de la femme, c'est vrai, hein. Le 25 novembre ?
Le 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités.
Super.
Donc là, c'est vraiment contre les violences, alors que le 8 mars, c'est vraiment pour les droits.
Les droits.
Voilà. Pour voilà. Et contre, c'est ça la différence. Très bien.
C'est ça.
Donc il y a ces deux événements très importants dans l'année et qui jalonnent un petit peu notre calendrier. Ensuite, on fait des actions tout le long de l'année avec des stands de sensibilisation dans des événements publics. Soit auprès de festivals de musique. Alors on a travaillé avec Babel Music, la Fiesta des Suds, le festival Jazz 5 Continents, l'Insane. Voilà. Et si vous organisez des événements, n'hésitez pas à nous solliciter. Le but est de donc justement visibiliser les chiffres des violences, engager la conversation avec des personnes qui sont pas forcément sensibilisées aux questions féministes. Et surtout pas, enfin qui sont souvent pas sensibilisés à toutes les violences auxquelles on peut être exposé quand on est une femme et une minorité de genre. Ensuite, on a co-organisé une action contre la venue de Depardieu l'année dernière, qui a été une très très chouette expérience devant une émulation féministe coordonnée contre la culture du viol.
Raconte-nous un petit peu, parce qu'il me semble qu'il venait lors de sa tournée Depardieu chante Barbara, c'est ça ?
Ouais,
ouais. Alors du coup, il devait passer où ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'en ai entendu parler de cette action, mais j'ai très envie que ça soit raconté à l'antenne.
Bah, du coup, il passait au Silo, donc dans le cadre de cette tournée. Comment ça s'est passé ? Bah, c'est venu de l'envie de plusieurs militants, militantes, de reproduire les actions qui ont été faites ailleurs en France. C'est d'autres comités de nous toutes en France qui ont sollicité l'action dans le sens où elles nous ont avertis de la venue de Depardieu parce que bah en fait on le suit pas forcément sur les réseaux. du coup on a imité cette vague féministe contre la culture du viol. Et donc, on a sollicité d'autres collectifs marseillais dans cette idée. Cindy, si tu veux compléter un peu.
Oui, c'est vrai qu'on avait la chance ou la malchance d'être les derniers à Marseille sur la liste des concerts donc de Depardieu. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il y a un lien étroit quand même avec le national et les comités locaux. On a des conversations communes sur WhatsApp, dans Discord, etc. Donc on a des serveurs communs. Et donc ça, on a été alertés par Lille, qui était les toutes premières à devoir l'accueillir, comme il se devait, évidemment. Et donc, on l'a lancé dans notre réseau avec tous les collectifs et toutes les associations avec lesquelles on organise le 25 et le 8 mars, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a eu une émulation assez forte autour de ça. On a commencé par faire un courrier au maire, puisque le silo est en partie financé aussi par la mairie. Donc en fait, on a fait un courrier au maire, on a fait un courrier à ceux qui gèrent aussi le silo, on a fait un courrier à l'adjoint au maire qui est en charge de la culture et puis celle qui est en charge de l'égalité femmes-hommes. Donc on a fait des courriers et puis on a eu des retours... quelques retours qui étaient plutôt négatifs sur le sujet. On a dit pas de souci, nous on va l'accueillir comme il faut. Donc il y a eu une grosse com sur les réseaux sociaux pour informer les gens et après on est allé sur place manifester. On a fait des tracts pour informer les gens sur place qui venaient au concert. Donc on était là en avance pour pouvoir tracter. Alors, c'était très, très fort parce que déjà, il y avait beaucoup de collectifs. Il y avait vraiment voilà, cette force commune. Mais il y a aussi eu en fait, des personnes qui n'étaient juste pas au courant. Et parmi le public, donc, il y a des personnes qui ont pris les tracts, qui nous ont dit qu'ils étaient vraiment très gênés, qui nous ont dit « mais on ne savait pas ». Après, ils ont attendu ce concert pendant super longtemps, donc ils y sont quand même allés. Mais il y en a qui sont repartis. Il y en a qui, il y a même d'ailleurs des personnes, et on les en remercie encore, qui ont laissé leur place à des militantes qui ont pu aller dans la salle interpeller Depardieu quand il a commencé. Bon, elles se sont faites sortir très vite, mais en attendant, elles ont pu le faire parce qu'il y a des personnes qui étaient là et qui étaient choquées d'apprendre ça et qui ont dit « bah non, on n'a pas envie d'aller le voir du coup maintenant qu'on sait ». Donc c'était vraiment très très fort comme action.
Ah, c'est génial qu'ils aient laissé leur place au lieu de cautionner. Vraiment, c'est du militantisme en soi, en fait. Ouais.
Exactement.
Et c'est vrai que cet événement a été très médiatisé aussi, ce qui n'est pas forcément dans les habitudes de notre collectif, ni même des collectifs féministes à Marseille. Donc c'est vrai que c'était un bon coup de projecteur sur la direction qu'on veut mener dans nos luttes et ne pas cautionner et ne pas laisser passer des agresseurs... et leur laisser le tapis rouge. Ouais. Et dans cette même veine, on sait qu'il y a le groupe Rammstein qui vient à Marseille en juin de cette année. Donc on va leur préparer un petit accueil. Comme c'est toi. C'est à venir, on fera circuler une tribune. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez y participer. On veut que toutes les personnes qui le souhaitent puissent apporter leur contribution. Donc...
Juste quelques phrases, parce que je vois que l'heure tourne et ça va être l'heure de la pause musicale, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le groupe Rammstein ?
Bon, bah, c'est un peu glauque, hein. Ils ont quand même de jolies casseroles qui leur traînent aux pattes. Le chanteur est accusé de multiples violences suite à des prises de drogue non consenties. Il y aurait tout un système de alpagage mis en place par leur manager qui irait chercher des jeunes femmes en amont des concerts, en les contactant via les réseaux sociaux, puis en les sollicitant pour aller à l'avant de la foule. Pour que après le chanteur les sélectionne pour les emmener ensuite en after party. Et after party qui sont censés être des fêtes sont en fait des événements très glauques puisqu'ils les droguent sans leur consentement et puis les agressent sexuellement. Donc voilà, et ça c'est qu'une seule des parties de leur joli CV en termes de violence. Donc voilà, ça touche quand même à des sujets extrêmement graves. Pour l'instant, il n'y a aucune femme qui a osé porter plainte contre eux, ce qui fait qu'il n'y a pas encore de mise en examen ou quoi que ce soit. Donc effectivement, la justice n'a pas de moyens d'action pour l'instant, mais nous on en a, donc on va pas s'en priver.
Ça fait froid dans le dos. Je suggère qu'on se prenne une douce pause musicale. Si je dis ça, c'est parce que c'est le titre que vous avez choisi ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors c'est une chanson de Clara Isée que j'ai découvert grâce à une très bonne amie. Et du coup, ça m'a doublement touchée parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté de lutte féministe et notamment d'agression. Et Clara Isée, dans cette chanson, parle de colère. Et je trouve que c'est un sentiment qu'il faut absolument relégitimiser et qui est hyper importante et qui nous lie dans nos luttes. C'est la colère et elle explique d'où elle vient et qu'elle est légitime d'exister.
C'est parti.
Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense douce que la colère et l'arrogance. Nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. C'est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux on les débride et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines.
Vous êtes bien sur Radio Galère, vous venez d'écouter Clara Isée, le titre douce, choisi par nos invités du soir, Diane, Béatrice et Cindy du collectif marseillais Nous Toutes. Alors, déjà merci beaucoup pour cette première partie et pour la seconde partie de notre émission qui va passer à toute allure. On va discuter un peu d'écoféminisme. Alors, écoféminisme, on pourrait croire que c'est d'une part le féminisme et d'autre part l'écologie et voilà, les deux qui s'additionnent, mais en fait c'est plus complexe que ça, c'est plutôt les deux mouvements qui se croisent. Est-ce qu'on pourrait le définir ?
Alors, je vais prendre la parole pour le faire. Donc, ça va être un petit peu théorique, mais il faut en passer par là pour comprendre l'enjeu de l'écoféminisme. La pensée écoféministe donc, a pour but de montrer l'analogie entre les oppressions que vivent les femmes et la surexploitation de la nature, parce qu'on y observe le même type de domination qui est perpétuée grâce au capitalisme patriarcal. L'écoféminisme a quatre axes principaux d'action et de pensée, qui est l'écologie, la justice sociale, le prendre soin, on dit le care, et le pouvoir du dedans. c'est un concept qui a été défini par Françoise Daubonne en 1974 dans son livre « Le féminisme et la mort » et qui s'inspire de luttes qui ne sont pas étiquetées comme écoféministes, mais qui vont dans ce sens-là, avec par exemple le mouvement Chipko, dont parle énormément la militante Vandana Shiva pour y avoir participé. C'est un mouvement de femmes qui lutte contre la déforestation en Inde. Vous pouvez écouter son intervention dans le procès du siècle, elle en parle très longuement. Il y a aussi des mouvements de protestation féminine au Kenya, portés par Wangari Maathai, également contre de la déforestation. Et du coup, réfléchir à ces mécanismes de domination permet de comprendre le projet de domination sur les populations et sur la nature, et du coup qui permet de remettre en question la vision de la nature véhiculée par le discours occidental et masculin.
Et alors, je ne sais pas si tu voulais poursuivre.
Ouais, juste un petit peu finir sur le fait que les plus les personnes sont imbriquées dans des mouvements de domination. Donc, par exemple, une femme racisée pauvre, handy, va cumuler du coup les dominations. Elles s'additionnent, elles s'annulent absolument pas. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Et on le voit d'autant plus dans l'écoféminisme, puisqu'on remarque que les personnes les plus touchées par le changement climatique sont les femmes, et notamment parce qu'elles sont... au niveau mondial, les plus pauvres. Enfin, elles représentent la population pauvre la plus importante. Et du coup, on voit que les mouvements de lutte contre la pollution est surtout mené par les femmes. Et du coup, le rapport à l'écologie se fait grâce à un niveau collectif de reprise en compréhension et en lutte de la nature.
Waouh, beaucoup de choses qui ont été dites. Vraiment, j'aurais plein de questions sur tous les sujets. Mais il y en a une première là que j'aimerais vous poser, c'est que quand tu parlais du mouvement de Vandana Shiva qui lutte contre la déforestation en Inde, c'est que ça nous paraît quand même très lointain, les sujets de déforestation. Nous, à Marseille, on la constate pas trop, la déforestation. Et du coup, je me demandais, vous, quel lien vous pouvez faire entre les dominations masculines et les dominations sur le vivant, que peut-être vous observez dans votre quotidien d'activiste militante.
Et ben ça se manifeste à plusieurs endroits. Déjà dans la réflexion de l'espace urbain, à quel point il n'a pas été pensé pour les femmes, les rues sombres, le manque d'infrastructures pour se déplacer, le manque d'accessibilité aux crèches par exemple, puisque tout ça c'était des choses qui concernent malheureusement encore en majorité les femmes. On remarque aussi des mouvements liés à l'économie, donc beaucoup de femmes qui gèrent en fait les budgets pour les couples et qui se retrouvent à devoir penser des subterfuges pour boucler les fins de mois. Et souvent ça passe en fait par des systèmes d'économie, mais qui comprennent en fait l'écologie. Sans le vouloir, finalement, le fait de consommer mieux et moins, et du coup ça entraîne en fait une pensée qui est compatible avec l'écologie.
Oui, c'est vrai que par exemple, on parle beaucoup de la notion de charge mentale et à quel point les femmes doivent prendre en charge sur leur espace mental toute la vie domestique, la vie familiale, les responsabilités des enfants, des familles, etc. Mais aussi tout ce qui va être instaurer de nouvelles pratiques qui soient plus durables, plus soutenables, comme par exemple faire sa lessive maison pour pas acheter la lessive ultra chimique, cuisiner davantage de produits bruts pour éviter les produits transformés et donc réduire ses déchets. Ça, ce sont tout, des pratiques qui sont la plupart du temps à l'initiative des femmes.
Oui, c'est d'ailleurs un problème puisque c'est du travail qu'on dit domestique et qui n'est absolument pas visibilisé puisqu'il n'a pas de répercussions immédiates pécuniaires. Et du coup, c'est ce dont profite le capitalisme patriarcal qui se croit d'ailleurs indépendant justement, alors qu'il est complètement dépendant non seulement de l'environnement, mais aussi justement du travail gratuit des femmes. Et
voilà. Oui, je pourrais rajouter sur cette thématique-là, en fait, du rapport entre l'exploitation des femmes au sein des foyers à travers justement ce travail reproductif et ce travail du care et ce travail du soin, de la maison, etc. Enfin, tout le travail qui est géré par les femmes, en fait, permet en fait aux hommes, finalement, alors c'est un grand raccourci, mais effectivement de détruire un peu plus l'environnement puisque eux passent la majeure partie du temps au travail. Mmh. Et donc ont tout loisir de réfléchir à des nouvelles entreprises, à des nouvelles façons d'exploiter la nature, à des nouvelles façons de créer
S'enrichir.
De s'enrichir et voilà.
Je crois que Marin a une question.
Je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. Moi, je me situe dans ce débat-là où je suis là ce soir, pas une femme pour ce qui me concerne. Et un des points qui m'a beaucoup questionné depuis plusieurs années, c'est la question d'interdépendance de ces questions de domination et sur lequel la question de l'écoféminisme permet de faire le lien en fait, entre des dominations de, d'hommes sur des femmes, de blancs sur les non-blancs, de personnes qui sont bourgeoises sur celles qui n'en ont pas, des humains sur le non-humain. Et l'écoféminisme permet, en tout cas selon mon regard, d'avoir une compréhension plus générale de ces différents mouvements de domination et de savoir justement comment est-ce qu'on arrive à sortir de ces rapports de un dominant ou quelques dominants sur des dominés vers des dynamiques qui sont plus fluides, harmonieuses et de care, comme vous le disiez. Donc voilà, c'est plus une remarque qu'une question, mais je voulais participer à cette échelle-là.
Oui, et juste pour finir, donc dans l'idée du travail domestique, reproductif, etc. Ça a aussi un impact au niveau des violences économiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui est aussi dans la lutte pour les droits des femmes, c'est que la répercussion est immédiate, non seulement dans les salaires qui sont plus bas à 24% environ, et aussi la répercussion des carrières hachées plus compliquées d'accessibilité pour les femmes entraîne des retraites à 40% moins importantes pour les femmes. Mmh. Donc la répercussion économique est énorme, en fait, tout simplement. Et effectivement, du coup, c'est en lien avec l'environnement, puisque du coup, on doit refaire attention, etc. Enfin, ouais.
Et les inégalités de richesse, du coup, se creusent encore plus. Et quand on sait que les plus riches sont ceux qui émettent le plus d'émissions de gaz à effet de serre, et ben là, on fait le lien sur le fait que les luttes féministes sont vraiment essentielles pour aller vers la transition. Et donc, justement, ça fait une bonne transition. En préparant cette émission, on a discuté de la théorie du donut. Alors, pour nos auditeurs et auditrices qui entendraient parler de ce concept pour la première fois, la théorie du donut, c'est donc un donut qui a été théorisé par l'économiste Kate Warhorse, donc une anglaise. Ce donut se constitue d'un cercle central qui représente le plancher social avec l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à un emploi, l'accès à la nourriture et aussi l'égalité des genres. Donc c'est un des piliers. Donc on a le plancher social et on va aussi avoir le plafond environnemental constitué des 9 limites planétaires qui elles sont un peu plus connues, mais pour les citer, il y a donc le réchauffement climatique, il y a l'extinction de la biodiversité, l'acidification des océans, la déforestation, les aérosols dans l'air. Et donc entre ce plafond environnemental et ce plancher social, on a donc l'espace juste et sûr pour le développement de l'humanité. Et cette théorie permet de donner une nouvelle vision de la société idéale qu'on souhaiterait atteindre dans un contexte de transition écologique et sociale. Et voilà, c'est comment un peu concilier fin du monde et fin du mois, c'est-à-dire effectivement, quand on est en situation de précarité, on se soucie un peu moins de manger bio et de réduire ses déchets puisqu'on cherche avant tout à boucler les fins de mois. Donc voilà pour la théorie du donut, qui est un concept qu'on cherche à diffuser au sein de cette émission. Et donc moi, ce que je voulais savoir, c'est déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette image du donut et le pilier égalité des genres, en quoi ça va servir la transition écologique et sociale ?
Pour bondir un petit peu là-dessus, alors déjà, merci de nous avoir fait découvrir nous aussi ce concept. Pour le coup, on ne connaissait pas le donuts. Il y avait des militantes parmi nous qui connaissaient et donc on a pu en discuter ensemble. C'était sympa comme discussion. En fait, finalement, au niveau des luttes pour le climat, il y a quelque chose de vraiment très important et ça va être un peu cette reconnexion à la nature, ce fait qu'on a perdu de vue la nature et l'importance qu'elle a pour notre survie, ne serait-ce que ça, en fait, pour notre survie. Et en fait, finalement, c'est tout l'enjeu de l'écoféminisme qui va essayer de renverser ces dynamiques de pouvoir. Donc ça a été dit tout à l'heure aussi, hein, que ce soit les dynamiques de pouvoir dans le genre, mais aussi dans la classe, dans la race, etc. La race sociale, évidemment. ça va être de renverser tout ça. Et c'est pour ça que la pensée écoféministe, écoféministe et donc cette égalité femme-homme et tout ce qui est en lien avec cette égalité permettrait de lutter efficacement en fait pour un meilleur environnement et contre les changements climatiques. Donc ça, c'est une première partie que moi je vois. Si vous voulez peut-être ajouter des choses.
Béatrice.
Oui, moi je vois aussi un changement de paradigme avec ce donut, c'est-à-dire qu'en fait c'est replacer au centre de la discussion les vrais besoins et les vraies choses essentielles en fait. C'est vrai que les limites planétaires, elles sont là, on ne peut pas les nier. Et en fait, les besoins de la population sont là aussi. Et en fait, aujourd'hui, on sait que l'économie, elle n'utilise pas ces paradigmes-là. Elle utilise la concurrence, le profit et effectivement, en fait, le PIB, enfin, des choses qui sont en fait artificielles, alors que finalement, les besoins humains fondamentaux et les besoins fondamentaux de la nature pour se régénérer sont essentiels. Donc moi, je trouve que ça permet de renverser effectivement la dynamique de réflexion et de se poser les vraies questions en fait.
Ouais, j'en profite pour préciser que le besoin de consommer ne fait pas partie du plancher social théorisé dans la théorie du donut. Donc oui, c'est vrai que ça permet de remettre au centre ce qui est vraiment essentiel.
Ouais. Mmh.
Diane, t'avais quelque chose ? J'ai cru que
Non, pas forcément, mais en tout cas, peut-être que juste pour le ramener un peu à notre sujet, à nous toutes, c'est justement la question des violences sexistes et sexuelles. Effectivement, si la population peut évoluer dans un environnement qui prend soin de sa santé mentale, de sa santé physique, forcément, elle va être plus épanouie et apporter une force de travail et d'intellect bien plus intéressant et bien plus dans le bienfait pour la société. Alors évidemment, du coup, a priori pas une société capitaliste, mais en tout cas, ça donne des pistes de réflexion pour justement proposer de nouvelles choses et pas juste s'arrêter à une théorie, mais justement sur des mises en application directes.
Ouais, l'idée c'est que la théorie se concrétise à un moment donné, ouais. Et question un petit peu provocatrice, c'est vrai. Est-ce que le monde serait un monde meilleur si les femmes étaient au pouvoir ? Est-ce qu'on en serait là où on en est aujourd'hui en termes de crise climatique ?
Femme au pouvoir, déjà, ne veut pas dire femme féministe.
C'est vrai.
Je pense qu'on a des exemples.
Oui,
on pense à l'Italie, on pense aussi à la France, même si on a des exemples de femmes qui aujourd'hui grandissent dans un système qui est patriarcal et capitaliste. Donc en fait, les femmes qui viennent au pouvoir dans la très grande majorité des cas, de toute façon, se sont finalement appropriées les codes qu'on va dire masculins pour arriver là où elles en sont finalement. Il faut écraser les autres, il faut être très ambitieux. Voilà, c'est caractéristiques de masculines, comme on les pense. Et en fait, finalement, est-ce qu'avoir des femmes au pouvoir, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne peut-être des visions différentes, et c'est pas toujours le cas. Mais finalement, c'est pas juste une question de mettre des femmes au pouvoir, c'est en fait mettre au pouvoir plein de visions différentes. C'est d'arrêter d'être dans cette uniformité suffit de voir notre gouvernement, c'est beaucoup d'hommes, c'est beaucoup de riches, faut le dire, hein, je crois qu'à la moitié sont millionnaires. C'est des gens en fait qui connaissent pas le quotidien de la majorité des Français. Donc peut-être que c'est pas juste mettre des femmes au pouvoir. Bien sûr, ça permet d'avancer sur certaines questions, mais c'est pas juste ça. C'est aussi au pouvoir mettre des personnes qui vont être handies, mettre des personnes qui sont minorisées sur plein de sujets différents. Ça va être mettre des maires. Par exemple, les maires n'ont pas les mêmes problématiques au quotidien que Jean-Marc, chef d'entreprise ou je ne sais quoi. Donc c'est plutôt ça qu'il faut, c'est plutôt une diversité dans les points de vue, dans les vécus.
Dans
les milieux sociaux, la classe est extrêmement important aujourd'hui. Donc tout ça s'imbrique, on en revient à notre concept d'intersectionnalité. Et c'est quand on aura amené de la diversité et surtout de la représentativité sur l'ensemble de notre gouvernement que peut-être on avancera.
Et est-ce que c'est uniquement dans le fait d'avoir des personnes qui arrivent au pouvoir, ou est-ce que finalement, si on considère que, comme tu le disais, c'est les femmes qui... Enfin, ces personnes-là qui rentrent dans un système tel qu'il est aujourd'hui, c'est plus tout simplement la façon d'organiser la société et donc d'aller encore plus en racine sur la façon dont on l'organise, la façon dont on décide de faire émerger les intérêts particuliers et de les trancher dans un intérêt général, et de dire que même si on va placer plein de personnes qui sont minorisées sur certains sujets, mais dans un cadre où à l'arrivée tu as un président qui peut se permettre de pouvoir passer au-delà de l'Assemblée pour un certain nombre de sujets, et on l'a vu encore hier avec la capacité de pouvoir éventuellement engager la France tout seul sur des conflits extérieurs, que finalement ça soit même la structure même du pouvoir qui soit à revoir.
C'est exactement oui. ça, et je pense que... Excuse-moi.
Non, vas-y.
C'est exactement ça, et c'est, je pense, le cœur de la pensée écoféministe. C'est ce que disait Françoise Daubonne, que, en fait, le but de l'écoféministe, c'est pas de prendre le pouvoir aux hommes. En fait, on s'en fout de prendre le pouvoir aux hommes. Ce qu'on veut, c'est finalement ce pouvoir le détruire et le répartir parmi tout le monde. Un exemple, moi, que j'adore, et c'est tellement dommage que ça n'ait pas marché, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Mmh. C'était une excellente idée. Pourquoi on ne l'a pas fait pour les retraites? Pourquoi on ne l'a pas fait pour tout le reste? Ben non, parce qu'il y a des gens qui veulent garder le pouvoir. Mais ça, c'était une excellente idée de prendre des gens représentatifs de notre société et de leur poser une question et de leur dire comment on règle ça. Et les propositions qui sont sorties, elles étaient vraiment phénoménales. Notre gouvernement a voulu en appliquer 4% pour dire à quel point le gouvernement qui dit que les Français ne sont pas prêts à l'écologie, bah en fait, c'est plutôt le gouvernement qui n'est pas prêt à l'écologie, je pense. Hein. Et c'est toutes ces questions pourraient être traitées, les questions féministes, comment on arrive à l'égalité, ça pourrait être traité comme ça, comment on traite mieux nos enfants, ça aussi, tout ce qui est violence sur les enfants, etc. Donc, comment on traite mieux nos enfants, comment on répartit mieux pour les retraites, etc. C'est des sujets qui pourraient être abordés en collectivité et pas juste avec des pseudo-représentants.
Tu voulais prendre la parole tout à l'heure, Béatrice.
Oui, oui, ouais. Le débat est totalement d'actualité, puisqu'aujourd'hui il est question de changer de constitution, il est question de revoir effectivement toutes ces questions de pouvoir et à qui on l'attribue et comment il s'exerce. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui effectivement, la Ve République, elle est plus du tout à la hauteur des enjeux et qu'effectivement elle mènera pas vers une transition écologique durable à l'heure actuelle, ça c'est sûr.
Ok, ouais, absolument d'accord. On a besoin de renouveau et de changement, n'est-ce pas? Alors je vois que l'heure file, j'aimerais bien juste conclure avec une question qui mériterait des réponses très très longues, mais on va essayer de rester synthétique. Imaginons, nous sommes en 2030, Marseille a réussi sa transition. Voilà, à quoi ressemble la vie à Marseille?
Peut-être déjà une vie où toutes les personnes peuvent prendre la parole et s'y exprimer. Donc peut-être justement dans cette idée de répartition des pouvoirs, que ça soit une ville où le débat citoyen est roi. Déjà, en tout cas, aussi évidemment repenser à 100% l'urbanisme, réintégrer la nature dans notre quotidien, que ça soit... par la manière dont on aime bien manipuler la nature, donc avec des parcs ou des choses comme ça, mais aussi toujours aller dans le sens de la protection de notre environnement, que ça soit marin, mais aussi ce qu'il y a sur Terre, dans les calanques, etc. Aller dans ce sens. Et c'est vrai que c'est dur de se projeter encore plus loin, puisque il n'y a rien de tout ça qui est mis en place, ni dans les faits, ni dans les pensées. Et on en a encore à devoir faire de la sensibilisation sur des sujets qui devraient ne plus en être. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes, mais restons optimistes, effectivement.
Qui prend la suite, Béatrice?
Oui, moi, je dirais que moi, ce qui me préoccupe à Marseille, c'est surtout la qualité du logement. Donc moi, je crois que aussi pour créer une ville heureuse et pour créer une ville soudée et pour créer une ville qui a envie de s'emparer des lieux et de créer du lien, etc., il faut d'abord se trouver bien dans son logement et bien dans sa vie, quoi, de tous les jours, quotidienne. Et là, il y a vraiment du travail à Marseille.
Effectivement, gros sujet à Marseille. Et Cindy ?
Pour compléter, en effet, l'urbanisme serait très important. Moi, j'aimerais voir des espaces de vie, donc pourquoi pas des parcs où on peut se retrouver, que les gens aient plus de temps. Donc peut-être que voilà, on travaille moins pour pouvoir se retrouver et faire du social, aider les personnes qui en ont besoin. Je vois un espace aussi qui est adapté pour, par exemple, les mères avec les poussettes. C'est un enfer, je pense, à Marseille. Je ne suis pas mère et pourtant, je me dis qu'elle galère. Donc voilà, des espaces qui soient adaptés à toutes les personnes qui vivent dans l'espace public. Donc, et les mères, et les personnes handicapées, et les personnes voilà, qui n'ont pas l'habitude de prendre toute la place. Évidemment, le bâtiment. Et puis, des espaces où on puisse partager. Mmh.
Et alors, en parlant d'espace à partager, est-ce que tu veux nous parler de la journée du 8 mars ?
Mmh.
Ouais. Et après, on va devoir rendre l'antenne.
Ouais. Le 8 mars, donc, c'est donc une journée forte en militantisme. Au Vieux-Port, vous allez avoir une ZOF, une zone d'occupation féministe. Donc, plein d'associations qui luttent dans ce spectre-là, mais sur divers sujets et qui vont, voilà, pourront vous sensibiliser. Il y aura des jeux, il y aura des choses où vous pourrez participer. Il y aura également un débat avec plein d'idées voilà, politiques sur le féminisme, etc. Donc, histoire d'animer la ZOF. Donc ça, ce sera entre 14h et 17-18h. À 18h, départ de la manif. Donc là, manif, venez en violet,
avec
vos pancartes, voilà, vos meilleurs
slogans.
Sinon,
on en fait sur place aussi. Hein.
À savoir que sur la ZOF, vous pouvez vous entraîner pour les chants aussi, puisqu'il va y avoir donc, une chorale féministe pour vous entraîner sur tous les chants de la manif. Et voilà.
Formidable. Eh bien, on retrouve le collectif Nous Tous le 8 mars sur le Vieux-Port. Et pour la Forêt des Possibles, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.